Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver. Bienvenue dans l'univers enjoué de l'émission littéraire Le Lire et le Dire. Au micro, Jean-Claude Cayette. Aujourd'hui, notre invité est Valère Starazelski, que nous recevons en raison de la parution de son dernier ouvrage, qui est Le Parlement des Cigognes, aux éditions Le Cherche Midi. Bonjour Valère.
Bonjour Jean-Claude et merci de me recevoir une nouvelle fois.
Alors, je te propose justement de te présenter en passant en revue les œuvres les plus significatives. Tout d'abord, on constate que ton œuvre se subdivise en plusieurs rubriques.
Oui, voilà. C'est vrai, plusieurs thèmes.
Il y a les romans, oui. Presque classiques, puisque sous le roman se dissimule généralement un message social ou politique.
En général, oui.
Alors, on peut en citer quelques-uns.
Un homme inutile, sur le chômage, voilà. Sur la nation, les romans historiques.
Dans les livres historiques, une histoire française.
Oui, sur les 25 ans avant la Révolution française.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Et la fin de règne. Quoi,
la fin de règne, de oui, Louis puis ce qui amène la Révolution française. Enfin, ce qui amène. Les 25 ans vraiment avant que ça démarre.
Et puis l'adieu au roi.
L'adieu au roi, oui. Pour répondre à Laurent Deutsch, qui se livre en malversation historique, mais ce n'est pas lui qui écrit ses textes, c'est M. Buisson. Donc, j'ai retrouvé des documents inédits et je restitue la vérité des faits historiques pour cette extraction ou profanation des tombes royales en octobre 1793.
Il y a un passage dans ton livre dans la basilique de Saint-Denis qui est absolument sidérante.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va déterrer tous les rois de France. On commence par Henri IV, dont on met la momie debout. Et en fait, d'ailleurs, Laurent Deutsch raconte que c'est Robespierre qui lui coupe un morceau de la barbe. Robespierre n'est pas dans la basilique. C'est Robespierre, c'est pas lui qui traite ces affaires-là. C'est un soldat qui fait ça. Et on va sortir tous les corps comme ça, ou les cendres, jusqu'à Dagobert.
Alors, il faut dire que tu es historien de formation.
Oui, disons que j'ai fait des études d'histoire. J'ai fait un doctorat sur les romans d'Aragon, mais je suis passionné par l'histoire et je fais des recherches historiques. D'ailleurs, pour l'adieu au roi, j'ai trouvé un document inédit du type qui jouait de l'orgue, s'appelle Ferdinand Gauthier, c'est son journal que j'ai fini par reconstituer, qui est un document historique, en fait, puisqu'il assiste à ces extractions des corps royaux.
Tu parlais d'Aragon. Trois livres, trois essais sur Aragon. Pourquoi trois?
Alors, parce que Aragon, c'est un continent lui tout seul. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, 25 ans, on racontait beaucoup de bêtises sur lui. Donc, toutes ces bêtises empêchaient qu'on approche ce qu'avait été l'homme réellement et ce qu'était son œuvre. Donc, j'ai d'abord essayé de restituer ce qu'était sa vie, son œuvre, dans un essai biographique, qui d'ailleurs a longtemps été un peu le seul avec celui de Pierre Dex et qui fait toujours autorité. Ensuite, j'ai travaillé sur les derniers romans, les romans les plus méconnus, l'après-stalinisme. Donc, ça, c'est ma thèse et j'en ai fait un bouquin qui s'appelle Aragon l'Inclassable. C'est des romans qui sont du niveau de Dante, mais qui ne sont pas suffisamment lus et qui sont vraiment d'une très grande modernité dans tous les sens du terme. Et puis aussi, quelque chose qui, dans mon camp, m'énerve, qui est, on met à tout bout de champ l'utopie, et Aragon, en fait, disait, le stalinisme, c'est le produit, le fruit de l'utopie. Donc, lui, il met en avant le concept d'invention. Il faut inventer à partir de ce qu'on a, du faire, un petit peu chaque jour, faut avancer une marche après l'autre, et ça évitera de verser dans une vision totalisante, voire totalitaire, et ça évitera peut-être les massacres. Je vais un peu vite, c'est l'essence.
Bien sûr. Le maître du jardin.
Alors ça, c'est Jean de La Fontaine, oui. Jean de La Fontaine. Ça fait partie un peu de mes essais sur la nation. Enfin, c'est un roman. Et d'ailleurs, vous avez vu que le nouveau ministre de l'Éducation nationale va offrir aux 150 000 élèves du cours moyen deuxième année les fables de La Fontaine. À la rentrée. Éric Orsenna s'intéresse aussi à Jean de La Fontaine. Donc, je trouvais que c'était un auteur qui était tombé dans l'oubli et qui est en fait un très grand auteur de la liberté. C'était un auteur d'ailleurs qui ne passait pas à la télévision à l'époque. Il était complètement mis de côté. Il n'a jamais été pensionné par Louis XIV comme on l'imaginait. Il a vraiment payé de sa liberté de plume sa vie. Mais enfin, bon, et en même temps, c'est l'auteur le plus lu aujourd'hui, l'auteur français le plus lu à l'étranger. Et bien sûr, selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs, c'est tout à fait d'actualité, par exemple.
Les livres politiques en collaboration, tels Un siècle d'humanité, donc l'histoire du journal L'Humanité.
L'Humanité, c'est ça, oui.
Et puis Un siècle de vie d'ouvrière.
Oui, c'est le journal de la, en fait, des communistes dans la CGT. C'est tout le mouvement ouvrier, politique et ouvrier, et communiste durant le XXe siècle.
Et puis des nouvelles ou des chroniques. Les chroniques, c'est plus politique.
C'est plus politique, voilà. plus théorique, disons, oui. Et des nouvelles. D'ailleurs, j'ai un recueil de nouvelles qui reparaît là en septembre. La revanche de Michel-Ange et Vivre intensément repose aux éditions La Passe du Vent.
Et puis l'avant-dernier livre qui est Sur les toits d'Innsbruck, un hymne à la nature et à la cause animale.
Voilà, c'est ça. C'est pas du tout un livre sur les ramoneurs. Parce que les toits, en fait, à Innsbruck, on est très vite au-dessus d'Innsbruck, dans la montagne, devant ce que nous connaissons tous, le réchauffement climatique. Il se trouve que, comme rédacteur en chef d'un journal, il y a 20 ans, j'avais alerté là-dessus. Et à l'époque, j'étais un peu bien seul, je trouvais, en 97. Et bon, on voit bien que la Terre devient une cocotte minute et qu'il est quand même temps de changer de mode de vie et de, comment dire, d'en prendre conscience, quoi, voilà.
Nous allons interrompre là cet entretien pour passer la parole à Camille Armand qui a enregistré une chronique sur un livre de Amin Malouf, Le Jardin des Lumières, qui nous parle de Mani. Camille, c'est à toi.
Bonjour à tous, je viens vous parler d'un livre d'Amin Malouf, Les Jardins de Lumière. Alors ce n'est pas un livre tout récent, c'est un livre que j'ai redécouvert. Donc Amin Malouf, pour vous le situer, c'est l'auteur de Léon l'Africain, de Samarcande. C'est l'oncle aussi d'Ibrahim, qui est le célèbre musicien. Et il a écrit donc à la suite l'histoire de Mani. Ce fameux personnage qui a donné ce terme de manichéisme. En fait, il nous relate son parcours et il nous montre que ce personnage n'est pas du tout ce que l'on croit, enfin ce que le terme manichéisme peut nous donner à croire et à comprendre. C'est quelqu'un qui vient comme d'habitude d'un milieu un peu... Enfin, qui n'est pas au départ le personnage qui deviendra, qui n'a pas du tout au départ l'aura qu'il aura par la suite. C'est quelqu'un qui a une jambe torse, qui est boiteux, qui n'est pas forcément, qui est élevé par un père qui est en gros rapté dans une sorte de... Les hommes en blanc sont une sorte de secte dans une palmeraie. On peut y voir déjà beaucoup de parallèles avec ce qui peut se passer aujourd'hui de l'islamisme. C'est le parcours de cet homme qui s'extrait de tous les joues peu à peu et qui démontre tout au long de sa vie d'une sagesse irréprochable, allant même en se mettre en danger, mais en continuant ce qu'il pense être sa mission. Qui est en fait de recréer une, je mets plein de guillemets, mais bon, une sorte d'amour universel. Et c'est, voilà, forcément, c'est combattu par beaucoup de personnages autour de lui qui viendront interférer entre sa vision et jusqu'à persécuter des gens autour de lui, etc. Donc c'est un récit à la fois très poétique et historique, et on apprend des tas de choses. On s'attache vraiment à ce personnage qui est riche, qui est riche de cœur et d'âme, qui est généreux, qui ne s'attache pas à grand-chose de matériel, mais qui trace son chemin contre vents et marées parfois, et des fois des portes s'ouvrent, inattendu, improbable. Il approche les grands de ce monde, juste avec sa petite personne, sans tralala, mais juste avec sa parole. La parole qui transcende tout, qui transcende beaucoup de différences. Mais bon, effectivement, la fin n'est pas forcément celle attendue. Mais je veux dire que ce texte, ce livre, on rentre dedans, on y plonge avec joie. avec une grande, grande joie. Et donc, ce personnage a été oublié, voilà, parce que apparemment son œuvre a été détruite, parce qu'elle était peut-être certainement trop révolutionnaire et subversive pour l'époque et pour beaucoup de dirigeants, voilà. Elle remettait en cause plein de choses. Mais donc, voilà, il reste des témoignages, des choses qui font que Amin Maalouf s'en est servi pour créer ce livre qui est lumineux, comme son titre. Donc, je vous rappelle, ce titre, c'est « Les jardins de lumière ». Je l'ai en version livre de poche, vous pouvez la retrouver. Et c'est un superbe texte. Et en même temps, bon, il y a plein de rebondissements. C'est une belle histoire. C'est une biographie, mais c'est une belle histoire. Une belle histoire de vie, voilà, sur un personnage extraordinaire. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et vous dis à bientôt. Au revoir.
Merci Camille, à une autre fois. Vous êtes toujours sur FPP 106.3 où vous écoutez l'émission littéraire Le Lire et Le Dire. Aujourd'hui, nous recevons Valère Starazelski en raison de la parution de son dernier livre, Le Parlement des Cigognes, aux éditions Le Cherche Midi. Alors, question indispensable. Pourquoi ce titre, Le Parlement des Cigognes ?
C'est un beau titre, non ?
Ah, c'est un très très beau titre.
En fait, voilà, j'ai pas eu beaucoup...
Mais ça peut pas dire
Je vais vous expliquer. En fait, c'est comme mon roman Nuit d'hiver, qui est le titre d'un tableau qu'il y a à Prague. En fait, Le Parlement des Cigognes est un tableau qu'il y a à Cracovie et que j'ai vu, et qui est reproduit sur la couverture du bouquin. Quand je suis allé en Pologne, à Varsovie et à Cracovie, j'ai appris qu'avant réchauffement climatique, mais en tout cas en toujours aujourd'hui, la Pologne est le pays des cigognes. Le quart des cigognes va nicher en Pologne. Et donc, il y a souvent des villages, des hameaux où il y a beaucoup plus de cigognes que d'habitants. Et donc, il y a des tas de tableaux dans ce musée à Cracovie, la peinture du 19e. Il y a peut-être le tiers des tableaux consacrés aux cigognes. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les cigognes, c'est un animal qui me fascine.
Ah, c'est...
Et puis bon, il y a tout un imaginaire. Quand on était petit, on nous disait qu'on avait été apporté par une cigogne. Et en fin de compte, ça dit bien aussi ce qu'il y a dans le roman, puisque le personnage, le narrateur,
principal, dire après,
voilà, a affaire aux cigognes.
Voilà. J'ai prévu qu'on en parle de ça. Le livre parle des atrocités commises en Pologne par les Allemands avec le soutien, l'aide active des Polonais.
C'est-à-dire qu'en fait, ce sont d'abord les Allemands, les nazis, qui, quand ils occupent la partie... Il y a le pacte Molotov-Ribbentrop en 1939 qui sépare la Pologne en deux. Les soviétiques occupent une partie, la partie orientale et les Allemands de l'autre. D'ailleurs, les juifs polonais, pour beaucoup... émigrent très vite du côté soviétique parce que c'est plus de la maltraitance, la Shoah commence bien avant la conférence de Wannsee, à coups de balles, à coups de pierre, à coups de bâton, etc. Donc les Allemands, la guerre une fois complètement déclarée contre l'Union soviétique, vont occuper toute la Pologne et vont installer les camps d'extermination en Pologne. Mais ces camps d'extermination vont être installés après que les Allemands n'arrivent pas à vaincre l'Angleterre, la Grande-Bretagne, parce qu'ils reprennent l'idée d'un ministre français, Marius Moutet, avec les idées qui étaient partagées avec le gouvernement polonais, dans 1937, de déporter tous les Juifs de Pologne sur l'île de Madagascar. Ah oui, le projet Madagascar. Et en fin de compte, ce projet n'aboutira pas parce que bon, la France va se retirer, mais aussi en même temps, la Grande-Bretagne va résister aux Allemands. Donc les Allemands décident après de déporter des Juifs vers l'Est. Ils vont se casser les dents contre l'Union soviétique et c'est là que ça va accélérer la prise de décision d'extermination sur place. Mais l'extermination qui va devenir systématique, notamment sur le territoire polonais, ce ne sont pas des camps d'extermination polonais, hein, ce sont des camps d'extermination nazis. C'est vrai que la Pologne, pour des tas de raisons historiques, est un peuple très antisémite. Et il y aura d'ailleurs des pogroms. Dès que la Pologne, en 1918, est rétablie, il y a une centaine de pogroms, et il y en aura comme ça jusqu'en 1939.
Pourquoi avoir écrit ce livre sur cette période si noire ? Il y a trois questions en une. Quelle est la genèse de cette histoire et puis les circonstances de l'écriture de ce livre ?
Alors, disons que la première question et la troisième se rejoignent parce que il se trouve que j'étais en train d'écrire, j'étais sur un roman que j'ai repris, un gros roman sur les racines judéo-chrétiennes d'ailleurs de l'Europe, avec cette idée avancée par un Oppenheimer qui dit que les démocraties sont développées dans les pays judéo-chrétiens. J'ai bien pas dit de race blanche, judéo-chrétien. Et donc j'ai fait un voyage en Pologne deux fois, d'abord à Varsovie, où bien sûr j'ai cherché ce qui restait du ghetto de Varsovie. En fait, il reste rien, juste un pan de mur. Et j'ai été très frappé par l'absence de traces juives à Varsovie. Et pour cause, la plus grande concentration des Polonais se trouvait en Pologne avant la guerre. Toute la culture juive ashkénaze vient de Pologne. Et sur 3 millions de Polonais qui vivaient en 1939 en Pologne, il en est resté à peu près 25 000 après la guerre. Donc, sur ces 3 millions, bien sûr, ils sont passés dans les chambres à gaz, mais il y en a 300 000 qui ont, comme le personnage du bouquin, qui ont échappé au camp en sautant des trains, en se réfugiant dans les bois. Et ces 300 000 vont vivre pendant, et vont mourir aussi, pendant les 4 ans de guerre, dans les bois notamment, ou cachés par des Polonais. Parce que si les Polonais livraient des Juifs pour un kilo de sucre ou par antisémitisme, il faut savoir que sur les 22 000 justes des nations désignées par Israël, il y en a 6 000 qui sont juifs, qui sont polonais. Donc en fait, il y a eu beaucoup de Polonais. D'ailleurs, il y a un film qui sort en ce moment en Pologne, qui va sûrement être passé en France, qui s'appelle Les gardiens du zoo. C'est un couple du gardien du zoo de Varsovie qui a sauvé plus de 300 juifs. Donc cette jeunesse vient de là. Je vais à Cracovie et ensuite, plus tard, et à Cracovie, en me baladant dans la ville, on passe la Vistule, et là, on tombe d'abord dans un quartier Casimir, qui est un ancien quartier juif, et l'autre côté de la Vistule, Podgorze, qui est l'ancien quartier juif. Et là, je vois que ça n'a pratiquement pas bougé, c'est un peu figé dans le temps. Alors ça commence à bouger parce que des bourgeois bohèmes commencent à investir les lieux, etc. Et un peu comme l'Allemagne de l'Est, quand j'étais allé il y a 30 ans, c'est un peu figé dans l'histoire. Et puis, bon, là, il y a l'usine de Schindler qui a donné le pilotis du film La liste de Schindler. Il y a l'usine que l'on visite. Il y a Auschwitz à côté. Et en même temps, il y a une espèce de terrain vague très, très bizarre qui est dans la ville, enfin, qui jouxte la ville, où il y avait un camp d'extermination. Et là, rien. Il y a juste un tout petit monument. Quand on demande de quoi il s'agit, les Polonais ne répondent pas ou vous envoient à côté. Donc j'ai voulu en savoir plus et j'ai regardé un peu sur Internet. Il y a tout un travail qui est fait. Et puis après, j'ai cherché dans les bouquins parce que j'ai ressenti un malaise par rapport à ça. Et c'est à partir de ça que j'ai pu faire des travaux de recherche et comprendre un peu ce qui s'était passé dans ce pays à cette époque-là.
Oui, alors vaut-il mieux avoir des circuits touristiques comme Auschwitz ou un oubli comme à Cracovie? C'est difficile à répondre.
C'est difficile à répondre. Disons qu'il y a des bouquins là-dessus qui disent qu'il y a un silence qui pèse encore sur la Pologne aujourd'hui. D'ailleurs, on voit bien que c'est l'enjeu d'un... L'histoire est toujours un enjeu, mais un enjeu politique très fort en Pologne aujourd'hui, puisque des chercheurs sont attaqués pour falsification de l'histoire, alors que je pense à Gross, notamment Jan Gross, qui, en fin de compte, rétablit des faits. Je pense que oui, il faut qu'on puisse visiter Auschwitz, mais il faut qu'on puisse aussi comprendre qu'à Plachov, à Cracovie, il y a une maison qui est là, qui est habitée d'ailleurs, qui est restée pratiquement en l'état, qui est la maison du gardien et du bourreau du camp, qu'il y a le fameux, j'ai découvert le fameux pavillon qui était habité par un des directeurs du camp, Amon Goetz, et on le voit dans le film qui tire sur les gens du camp. Et donc, c'est là, et donc, effectivement, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, il faut dérouler les choses jusqu'au bout, sinon on ne va pas s'en sortir. Ouais. Sinon, les Polonais ne vont pas s'en sortir.
Le début du livre, c'est un groupe de Français qui vient en séminaire.
Oui.
Ils sont très jeunes. Hein.
Oui.
Ils vont visiter la ville, le cimetière, visiter le camp. Ils vont voir le
camp. Ils vont découvrir le camp, oui, c'est ça. Ouais.
Ils vont à un moment donné dans un musée où il y a ce fameux tableau des cigognes. Et puis, il y a un vieux monsieur qui est là et qui regarde le tableau. Et il va commencer à raconter son histoire.
Son histoire, c'est ça.
Là, on va faire un résumé. Il est polonais, juif, c'est un adolescent à l'époque de 17 ans. Il vit dans le ghetto de Cracovie.
De Cracovie, oui.
Et il raconte qu'ils savaient tous qu'ils allaient vers la mort.
Oui.
Et là, il explique quelque chose d'intéressant, qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les juifs sont restés passifs et ils sont partis à l'abattoir. Qu'est-ce qu'il dit
C'est ce que j'ai découvert dans les nombreux témoignages que j'ai pu lire. Ils savaient qu'ils allaient à la mort. Simplement, quand sa propre famille est anéantie, on n'a plus envie de vivre.
Voilà.
On sombre dans la dépression. D'ailleurs, ce type qui survit, il survit à quel prix? Enfin, les survivants, c'est la chanson de Jean Ferrat, Nuit et brouillard. À quel prix on survit? D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, quand ils vivent un traumatisme, ils ont beau ne rien en montrer, la perte d'un être cher, etc., etc., ils ont du mal à vivre après. Mais quand c'est toute une famille, quand c'est sa culture, quand c'est son groupe, etc., c'est très difficile. Donc, effectivement, il y en a qui ont choisi plutôt de partir ensemble plutôt que d'essayer de survivre, oui.
Oui. Et en plus, il savait qu'en cas de fuite, il n'aurait aucune aide de la population, et c'est ce qui est arrivé.
Oui, ou pratiquement pas, parce que je vous dis, sur 300 000 juifs qui se sont cachés en Pologne, il en est resté 25 000. Et en plus, je ne sais pas si on peut le dire, mais ça ne s'est pas arrêté en 1944-1945. Ça a continué après la guerre. Il y a eu, en Pologne, il y a eu des pogroms, à Kielce notamment, où il y a eu, ils ont tué des bébés, des femmes, etc. etc. Et l'armée l'AK, l'armée de droite polonaise, montait dans les trains, faisait descendre des types, leur faire baisser la culotte, et les fusillait sur place, les tuait sur place. Donc ça a duré jusqu'à fin des années 50.
C'est donc un livre de témoignages atroces sur l'élimination des juifs polonais, mais également des exactions atroces des Polonais qui ont participé au massacre.
Bien sûr, oui, bien sûr. C'était d'ailleurs, les bases œuvres étaient souvent confiées soit aux Ukrainiens, soit aux Lituaniens, soit aux Polonais. Bien sûr, ils le faisaient d'autant plus, y compris après la guerre. Enfin, je veux dire, ils étaient tellement habitués à ce qu'on tue les Juifs. Après la guerre, on voit ces Polonais qui fouillent dans les cendres des camps de concentration ou qui vont sur les cadavres chercher des choses.
Nous revenons vers le narrateur qui s'appelle Sigmund.
Oui, comme Freud.
Oui, il arrive à s'échapper du train qui emmène sa famille vers les camps d'extermination. Oui.
C'est vrai tout ça. Hein.
Et parvient... à survivre dans la forêt pendant plusieurs mois.
Plusieurs mois, même presque une année,
presque
une année et demie.
Ça, oui. Et c'est là qu'intervient son amour des cigognes. Et donc tu vas raconter pourquoi.
Effectivement, il y a des témoignages des gens qui ont vécu dans les bois. Il y a un type qui s'appelle Charles Foster qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Dans la peau d'un animal, un anglais. Et effectivement, les juifs qui sont cachés dans la forêt pendant toutes ces années devenaient eux-mêmes animaux. Voilà. Mais pas animaux, je dis pas ça, c'est pas péjoratif, au contraire. Et en fin de compte, ils vivaient, ils sentaient même l'odeur de l'homme très loin. Et en fin de compte, il est accompagné par les cigognes. Et en fin de compte, elles servent de vigie.
Comme les oies du Capitole.
Voilà, comme les oies du Capitole. Et donc, il conçoit pour ces animaux avec qui il passe des mois. Enfin bon, quand elles reviennent au printemps, il conçoit un amour. D'ailleurs, pas que des cigognes, parce que ce Sigmund va devenir non pas végan, mais végétarien par la suite. Parce qu'il ne peut plus manger d'animaux. D'ailleurs, il y a un Isaac Singer, qui est prix Nobel 78, qui a quitté la Pologne en 35, qui a écrit un merveilleux roman qui s'appelle La famille Moscat, M-O-S, KAT, qui raconte trois générations de juifs polonais en Pologne, et avec ceux qui sont du côté du sionisme, ceux qui sont complètement inconscients de ce qui se passe et ceux qui sont du côté des bolcheviks. Et donc ce Singer va quitter la Pologne en 1935, et c'est lui qui va inventer pour les abattoirs d'animaux la formule Treblinka des animaux. Et il va devenir végétarien lui aussi.
D'accord.
Et donc effectivement, on peut me reprocher de faire un rapprochement entre ce qui s'est passé avec les juifs quand on met dans les abattoirs et les animaux. Mmh. En tout cas, lui, Singer le fait. Mmh. Le fait. Et donc ça peut effectivement nous interpeller un petit peu sur l'industrialisation qu'on fait aujourd'hui de la viande animale. Enfin, des animaux, pardon.
Bien sûr.
Y a-t-il une morale ou une leçon à retenir? Et quelle est la tienne, ou es-tu juste un passeur?
D'abord, je suis un passeur parce que les jeunes, ils n'ont pas 25 ans dans le bouquin. Et moi, je suis très, très marqué par l'idée de tradition qui veut dire transmission. Je me souviens, j'avais interviewé Houellebecq il y a très, très longtemps, et lui, il me disait qu'il n'avait rien à faire de ça. Je dis, mais à mon avis, si vous ne connaissez pas ce qu'il y a eu avant, depuis s'est rattrapé, les Balzac, etc., je dis, à mon avis, vous ne pouvez pas porter plus loin les choses, en tout cas, affirmer cette fragile, enfin, quelque chose de fragile qui est l'esprit humain plus loin. Donc, je pense que je suis d'abord un passeur. Après, moi, évidemment, je me permets de penser que la mondialisation avec les déplacements de population, comme ça, par dizaines de milliers, bah, ça peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses. Hein, il suffit de voir Le Goff, l'historien, qui explique que bah, oui, l'apport de populations comme ça, très vite, exogènes à un moment donné, ça entraîne des conflits, c'est comme ça. Et donc, comment on peut, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, arriver à faire en sorte que ce n'est pas, c'est non pas en s'opposant à la marche normale du monde, mais comment on peut prendre les choses en main pour pas tomber là-dedans. Parce qu'on voit bien que ça recommence à prendre forme dans quelques endroits, y compris en France, où, par exemple, l'antisémitisme reprend racine très, très fortement. On voit bien que le danger est toujours là.
Une dernière question. Mmh. Je présume que l'écriture de ces atrocités a dû être une épreuve pour toi, parce que le livre est très fort. Hein.
Il y a beaucoup de
descriptions.
C'est dur. Oui. J'ai sous les yeux aussi d'autres témoignages. C'est quelque chose. Oui, on fait des cauchemars. On est mal. Hein. On est très mal. J'avais hâte de terminer pour ne plus. Parce que c'est quelque chose qui, quand on est normalement constitué, qui vous touche à l'intime, quoi. Qui vous touche au plus profond.
L'émission se termine. Quelle est la question à laquelle tu aurais répondu et que je ne t'ai pas posé?
Peut-être le rapport aux animaux, parce qu'en fin de compte, en réfléchissant au Parlement...
Je te la pose, celle-là, justement.
Oui, alors, non, mais peut-être que le titre, en fait, me fait dire qu'il va falloir légiférer. On commence à le faire. Et je pense que l'humain ne va pas de soi. Donc il faut toujours humaniser, et je pense que le rapport aux animaux peut aider, effectivement, parce qu'on dit que les gens qui maltraitent les animaux sont pas bons, ils maltraitent pas des hommes, mais les gens qui maltraitent les animaux maltraitent un jour ou l'autre, sont plus enclins à maltraiter les êtres humains. Voilà. Donc essayons de vivre le mieux possible ensemble sur cette terre, le temps qu'elle n'explose pas, qu'elle disparaisse pas dans l'univers sidéral.
Nous recevions Valère Strazelski en raison de l'apparition de son livre « Le Parlement des cigognes » aux éditions du Cherche Midi. Merci Valère.
Ben c'est moi qui vous remercie.
Et merci à Camille. Si vous voulez nous faire part de vos impressions, laissez des commentaires. Vous pouvez nous joindre à ce mail jc.cayette@nous.fr. Je rappelle que vous pouvez nous écouter ou nous réécouter le mardi de 9h30 à 10h. C'était JCC pour FPP. Au revoir.